une thématique qui te met mal à l'aise, ou tu n'as pas envie de traiter, tu me le dis.
D'accord.
Et puis on passe à une autre thématique pour une autre question.
Ok.
Voilà. L'idée, ce n'est pas d'être. De souffrir. Mmh. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Guimauve, verveine, framboise, marjolaine.
Je peux sentir ?
Oui. Parce que j'impose là.
C'est bon.
Ouais, ça te goûte ?
Mmh.
Ok. Moi aussi, parfois, je prends sans. Sans rien, quoi, juste de l'eau chaude.
Ah oui.
Ça me fait du bien. Je mets ça aussi, c'est agréable le matin. Tu as bien dormi cette nuit ?
Oh, ouais, je me rappelle pas comment je suis rentrée chez moi. J'ai beaucoup bu hier soir. Je commençais après la répète, on a bu des verres avec les autres acteurs, parlé un peu de la pièce. Et puis après, j'ai retrouvé deux copains. Enfin, un copain, une copine, on a encore bu des verres, mangé. Et à un moment donné, on a fumé des pétards. Comme souvent, quand je fume des pétards, je n'arrivais plus à participer à la conversation. Et je finis par rentrer. Mais ouais, je me suis réveillée ce matin un peu brumeuse.
Tu manges le matin ?
Ce matin, ouais, j'ai mangé.
Est-ce que tu as des rituels le matin ? En te réveillant.
Bah, je bois toujours un café et je fume une cigarette. Après, si je mange ou pas, ça c'est aléatoire. Ça dépend des jours.
Santé.
Santé.
Attention, je crois que c'est très très chaud.
Je vais laisser peut-être un peu infuser.
Et le soir, avant d'aller dormir, est-ce que tu as des rituels ?
Le soir avant d'aller dormir, est-ce que j'ai des rituels ? Bon, ça dépend. Ça dépend. Je me passe un coup d'eau sur le visage. Je me brosse les dents.
Des rituels de soin, quoi.
Mmh.
C'est ça. N'hésite pas à faire comme moi et à prendre des petits coussins.
Ouais.
T'aimes bien dormir ?
Oui.
Tu dors beaucoup ?
Non. Enfin, je dors, non, je sais pas, je dors... Là, en ce moment, je me réveille sans réveil assez tôt. Je me réveille tous les jours à 7h30. Je pense que j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Je me réveille après 7 heures de sommeil. Après, si, ouais, 6h30, 7 heures, je dors moins l'été. L'été, j'ai besoin de entre 5 et 6 heures de sommeil. Et l'hiver, entre 7 et 8 heures.
Mmh. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a autour de ton lit ?
Autour de mon lit, il y a une bibliothèque à droite. Une bibliothèque encastrée. En fait, il y avait un trou dans le mur et puis j'ai fabriqué avec un ex-copain, j'ai fabriqué une bibliothèque. Donc, du coup, il y a des livres. Et puis, de l'autre côté, il y a une espèce de truc que j'ai récupéré dans la rue, mais qui a plusieurs cases, et sur lequel il y a une lampe. Et à l'intérieur des cases, il y a les bouquins que je lis en ce moment. Et puis, au bout du lit, il y a une penderie. Accroché au mur, avec à côté une étagère. Il y a deux étagères, une à côté et une en dessous. C'est une petite chambre.
Et ton lit, c'est quelle taille ?
Mon lit est grand. J'ai un queen bed.
160, 200.
160, ouais.
160 par 200.
Ouais, je crois.
Moi, j'ai ça aussi depuis peu et c'est vraiment la révolution dans mon lit, quoi. Enfin...
Mmh. Moi aussi, j'ai acheté un matelas. J'ai acheté un matelas juste après le confinement. Et je pense que c'est la première fois que j'ai un matelas un peu confortable et que j'ai un lit. Parce qu'avant, j'avais un petit matelas qui était posé par terre, puis dans l'appartement que j'avais avant, il y avait beaucoup d'humidité et il avait un peu moisi. Mmh. Donc, c'était pas un lit... au final, je dormais quand même dessus, je dormais bien, ça me dérangeait, enfin, ça m'empêchait pas de dormir. Mais le confort du lit, ouais, ça fait même pas un an que je l'ai, c'est vrai que c'est très agréable.
Tu l'as choisi, ce lit. Mmh. Tu en es la propriétaire. Mmh. Et tu as acheté un sommier aussi, alors ?
Ouais.
Tu les as achetés séparément ou... T'as fait chauffer la carte bleue ce jour-là et t'as acheté les deux en même temps.
J'ai acheté les deux, oui.
Mmh. Et t'as eu cette prise de conscience du soin à cause d'un événement extérieur ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu investisses dans ce lit ?
Ben, c'est que j'avais ce matelas. J'avais un tout petit matelas, genre le premier prix chez Ikea que j'avais depuis vraiment longtemps et qu'il y avait ces moisissures, quoi. Et je me disais, bon, bah. Enfin, j'avais pas depuis si longtemps que ça en fait, 4 ans, et je me suis dit, bah, soit je rachète un truc comme ça. Après, j'ai acheté ça sur internet, genre hyper pas cher et tout. Je pense que j'en ai pour 400 balles, tu vois, un sommier et un matelas, enfin, c'est quand même 400 balles. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, autant que ouais, j'avais un peu de sous. Autant acheter un truc, que oui, j'étais pas obligée de prendre le moins cher, que je pouvais avoir un lit agréable. Aussi un lit où j'ai envie d'inviter quelqu'un, ce qui n'était pas vraiment le cas dans mon lit avant.
Tu t'organisais pour plutôt dormir chez l'autre personne ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a... Je dirais qu'il y avait une forme de honte
Non, pas vraiment de honte. C'est arrivé que je dorme avec quelqu'un dedans, mais... je sais pas, je peux pas dire que j'avais un rapport très... très sensible et je sais pas, le fait aussi d'avoir vraiment un lit dans la pièce là, du coup c'est je sais pas, c'est moins camping.
Oui. tu te sens enfin installée,
ouais,
quelque chose comme ça. Mmh. Tu, c'est ta chambre, quoi.
Ouais.
C'est pas un espace de transition. Mm. Et est-ce que tu as le sommeil agité ?
Pas tant. Je sais pas. Ça dépend. Si, apparemment, je bouge. Enfin, les gens... Moi, je m'en rends pas compte, en fait. Pour moi, c'est très calme. Je crois que dormir à côté de moi, c'est pas nécessairement calme.
Donc, est-ce que tu invites aussi des amis à dormir avec toi ?
Oui.
Pas seulement des partenaires ?
Non.
Et tu aimes bien partager ton lit ?
Oui. Pendant très longtemps, je supportais pas de dormir seule. J'allais dormir avec mes colocs et tout.
Ah oui.
Des fois, je ramenais même des mecs. Quand j'avais 18 ou 19 ans, je ramenais des mecs moins pour coucher avec eux que pour ne pas dormir seule après ça, quoi.
Tu t'endors dans quelle position ?
Sur le côté.
En fœtus ? Ou plutôt en chien de fusil, comme ça ?
Plutôt en chien de fusil.
Et tu te réveilles dans la même position le lendemain ?
Non. Pas nécessairement.
Mais est-ce que tu as toujours été à l'aise dans un lit ?
Mmh.
Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais pas compris que cet espace pouvait être que le mien. Je bougeais pas. Enfin, pendant très longtemps, je n'ai pas bougé sur ce lit. Déjà, je voulais pas abîmer ma coiffure. Et je me mettais dans un coin, jamais au centre, toujours sur un côté plutôt proche, proche de la table de nuit, près de la lumière, pour que ma main attrape la lumière très rapidement, pour me sentir en sécurité. Et en fait, je ne défaisais presque pas mon lit, quoi. Il n'y avait pas eu trace de mouvement dans ce lit-là. Et ça m'a tenue très, très tard. Jusque très, très tard. Peut-être probablement à la puberté, j'ai commencé à l'habiter grâce au développement de la sexualité et tout. Mais heureusement que ça m'est un peu... Enfin, c'est venu, je crois, un peu me sauver, quoi, d'une inertie dans le lit.
Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a été... C'est justement, peut-être à l'inverse, un endroit que j'ai surinvesti. Dans le sens où, par exemple, j'ai... maintenant, je travaille à mon bureau, mais pendant toute mon enfance et adolescence, c'était l'endroit où je faisais mes devoirs. J'avais un bureau, mais qui était, ça c'est toujours le cas, complètement bordélique. Et je lis dans mon lit, et j'écris dans mon lit, et je peux y aller, pas exclusivement pour dormir. Et après, donc ça c'était dans des endroits où j'ai habité, mais j'ai aussi une grande période où j'étais un peu ringbalée d'endroit en endroit, et donc du coup les lits étaient très changeants, enfin vraiment, je pense. Je pouvais en changer même plusieurs fois par semaine. Et du coup, c'était toujours un peu comme une île, quoi. Il y avait cet espace qui pouvait changer, même si le lit changeait. C'était quand même l'endroit où j'avais un espace de solitude, quoi. Où j'avais un ancrage quelque part, ou un
repère.
Ouais. Quand on présentait un nouveau foyer, un nouvel endroit, finalement, c'était toujours la cuisine, voici l'espace commun, voici. Mais ça, c'est ton lit.
Ouais. Et c'est la seule chose qui
est nominale, en fait, qui est pour toi, ouais. Et du coup, je pense que c'est... j'ai passé beaucoup de temps au lit.
Et tu l'es... Est-ce que tu laissais ton empreinte, je veux dire, sur ces lits, tu vois? Laisser des objets dessiner, enfin, coller des... Je sais pas, des photos à côté de...
Non.
À côté de ton lit.
Pas dans ces espaces-là. Non. J'avais des chambres très neutres. Je mettais jamais rien. De toute façon, je restais pas longtemps.
Et aujourd'hui, comme tu as ton propre lit, ton propre espace, qu'on ne va pas te retirer, est-ce que tu décores cet espace?
Un peu, ouais. J'ai une lumière particulière, des LED rouges. Et puis c'est tout.
Est-ce que ton lit, il est contre un mur?
Oui.
Et est-ce que il est proche d'une fenêtre?
Oui.
Donc, quand tu es allongé sur ton lit, est-ce qu'il t'arrive de rêver, les yeux ouverts, et de... Ouais, regarder par la fenêtre et de ne rien faire. Est-ce que ça t'arrive de ne rien faire sur ton lit?
Oui.
Parce que tu disais que tu l'avais surinvesti à un moment, et j'entends que maintenant tu as déplacé les activités que tu faisais sur ton lit ailleurs, quoi, font d'autres, dans d'autres espaces. Donc aujourd'hui, l'activité principale que tu fais, ou les activités que tu fais dans ton lit, ce sont lesquelles ?
Bah, c'est oui, c'est plus un endroit de repos. Mmh. Un sommeil, mais parfois ça peut juste être du repos, quoi, s'allonger un peu. Et
t'arrives à dormir dans d'autres espaces que le tien, que ton lit ?
Oui. Mmh. Oui, je dors souvent chez des amis.
Est-ce que t'es bien installée ? Mmh. Ça va ?
Oui.
Tout va bien. Le thé n'est pas trop...
Non, froid. Il est très bon.
Il est bien. Mmh. Ok.
Très bien.
Est-ce que tu peux me parler du rapport que tu as avec tes cheveux ?
Oui.
Est-ce que tu aimes tes cheveux ?
Est-ce que j'aime mes cheveux ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des moments.
Tu en prends soin ?
Je pourrais en prendre plus soin. Je suis pas. Ouais. Je passe pas énormément de temps, par exemple, je me coiffe pas. Parce que je trouve que ça sert à rien. Parce qu'ils s'en mêlent tout de suite. Et donc, je les démêle que quand je les lave. Et puis, je sais pas. Il y a. J'aime bien changer, quoi, et je suis toujours, par exemple, pendant le confinement, je me suis rasée, enfin, j'ai coupé très 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 court, parce que j'en pouvais plus de mes cheveux, mais au bout de 2 mois, j'en pouvais plus d'avoir les cheveux courts, et je savais que ça allait mettre très longtemps à pousser, et puis, alors des fois je fais des tresses. Je les teins.
Ah oui ?
Ouais, ça arrive. Mais aussi parfois je regrette après parce que ça les abîme tellement. Ouais, bah là j'ai fait des tresses par exemple, mais c'est toi, tu m'avais conseillé de mettre de l'huile sur mon crâne et je me suis rendu compte, ouais, que c'est des petits soins comme ça qui prennent pas vraiment de temps parce qu'il y a quelque chose comme ça où je prends pas soin parce que j'ai cette espèce d'idée que ça prend beaucoup de temps et que j'ai pas envie d'accorder ce temps là et je me rends compte que c'est des petits gestes qui t'offrent un confort dans ton être, quoi, et qui sont une bienveillance à soi que j'ai peut-être tort de considérer comme pas de par le temps, en fait. Mmh. Parce que ça peut être aussi, oui, voilà, quelque chose.
Est-ce qu'il y a des copines dans ton entourage qui t'ont appris à coiffer tes beaux cheveux ? Parce que moi, je les ai vus, tes cheveux. Ils sont vraiment magnifiques. Est-ce que tu as reçu du savoir, justement, pour savoir comment les laver ? Parce que tu me disais que le soin que tu apportais, c'était les laver.
Ouais. Donc,
bah après, ouais. Tu les coiffes ce jour-là, quand tu les laves ?
Bah, je les démêle au doigt, tu vois, je les démêle avec un après-shampoing, je les démêle au doigt. Okay. Et puis je les laisse sécher, quoi.
Ça, j'ai appris tout récemment que c'était vraiment ce qu'il fallait faire.
Ah bah voilà, vraiment. J'ai des bons...
des bons réflexes.
Ouais.
Vraiment de séchage naturel, quoi.
Non, c'était compliqué parce que quand j'étais petite, ma mère me rasait la tête parce que je hurlais quand elle me brossait. Ça la saoulait. Donc elle me coupait les cheveux, elle me
punissait, quoi.
Elle me rasait la tête. Mais du coup, on m'appelait souvent le petit garçon. Donc après, pendant très longtemps, j'ai eu les cheveux longs. Et vraiment, les cheveux courts, c'était pas possible. Et puis, après, il y a eu tout un... Voilà, un jour, je me suis rasé la tête et je me suis rendu compte aussi que oui, voilà, je pouvais être féminine avec les cheveux courts, avec... Et pas nécessairement... Enfin... Après, par exemple, on ne m'a jamais lissée parce que je ne supportais pas non plus. C'était beaucoup trop long et tout. Et donc, du coup, j'ai une texture de cheveux assez préservée. Mm-hmm. Et,
en bonne santé, finalement.
En bonne santé, ouais. Et je ne fais pas grand-chose de plus, c'est plutôt une histoire de silhouette, quoi. Des fois, j'apprécie d'avoir la grosse masse de cheveux, et puis à un moment donné, je n'en peux plus. Après, le truc, c'est que ça met longtemps, très longtemps à pousser, donc tout geste coupé ou finalement
et
les
un
tresses,
peu radical.
C'est, voilà, c'est ça. Ça prend toujours. Un engagement sur le temps.
Ça joue sur ta patience, quoi. Mm-hmm. Mais ça me parle, moi, ce que tu dis par rapport à la silhouette, hein, de choisir un look, en fait, quelque part. Mais l'impact de cheveux courts, cheveux longs, sur le dos, par exemple, sur la conscience de ta nuque, sur... est-ce que je me sens plus sexy avec telle coupe ? Enfin, quel est le regard que je porte, moi, sur mon propre corps avec tel cheveu ? Et puis aussi, qu'est-ce qui m'est renvoyé par rapport à ces cheveux-là ou d'autres ou, et bon, moi, je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, c'est tout récent d'apprécier, de jouer avec différentes textures de cheveux. Foulard, tresse, pas tresse, nappy, dread, très dread pendant 8 ans, bien emmêlé, tout court, d'expérimenter ça, en fait. De se dire, waouh, ça remet en question pas mal de choses, en fait. Rien que juste avec les cheveux, ça me redéfinit, quoi. J'ai l'impression que je fais une sorte de mise à jour. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas la trace de ce que j'ai vécu avant, quoi. Mais typiquement, quand j'ai les cheveux très courts, je sens mon dos, quoi. J'ai un dos. À nouveau, j'ai un dos. Mais parce que c'est l'expérience de quelqu'un qui a eu les cheveux longtemps, qui te dit ça. Mais je crois que je n'avais pas de dos. Enfin, je le cachais. Je cachais ma nuque. Et ça me permettait de ne pas voir mes bras. Enfin, c'est vraiment des trucs... Parce que j'aime pas, j'ai l'impression d'avoir des gros bras. Donc la grossophobie avec son propre corps a des endroits que tu ne peux pas bien voir en plus. Enfin, tu vois vraiment le bas du dos qui est un peu compliqué. Et donc je voulais savoir si toi aussi, quand tu changes comme ça de cheveux, est-ce que ça change la perception que tu as de ton propre corps ? Et quel est le chemin que tu as parcouru ou alors que tu expérimentes aujourd'hui par rapport à tout ça ?
Moi, c'est beaucoup aussi le visage, parce qu'avec les cheveux longs, j'ai tendance à ramener, en tout cas, sur une partie de mon visage, à ramener les cheveux sur une partie de mon visage. Et au-dessus, j'ai souvent le visage un peu recouvert, et donc, du coup, lorsque je coupe très court ou que je rase, ce fait d'être... de pas pouvoir cacher, pas pouvoir se dissimuler derrière les cheveux. Et Ouais, c'est
quelque chose.
Quelque chose, ouais. Ouais.
Oser se regarder et oser les autres te...
S'exposer,
te,
ouais.
Te, ouvrir le regard, quoi.
Oui, c'est ça, se laisser voir comme ça.
Exactement.
Et puis, ouais, le jeu aussi. Par exemple, là, en ce moment, j'ai des locks longues. Et ça, c'est les mains, tu vois. Ça m'occupe très fort, les mains. Je passe mon temps à jouer avec, tu vois, un petit geste ou quoi. C'est aussi c'est une sensation que j'aime bien, quoi. D'avoir ce... Je sais pas, c'est comme un geste rassurant, comme ça, sur soi.
Oui, moi je sens ça aussi beaucoup quand j'ai les cheveux longs, je me sens protégée. Protégée, et aussi je me protège moi-même. J'ai décidé de mon armure, quoi. Et c'est comme toi, je joue avec les cheveux, dans les mains ça m'occupe, mais quelque part, je suis très heureuse quand je n'ai plus du tout. Quand j'ai coupé pour la première fois, ça m'a obligée en fait à ne plus me cacher, quoi. Et à dire, mais oui, bah oui, je suis là. De toute façon, je ne vais pas m'excuser d'être là. Il faut faire avec mon corps dans l'espace, quoi. Que ce soit dans une conversation 2, 3, 4 ou juste dans l'espace public. Oui, je suis là, bah oui. Oui, j'ai cette texture de cheveux là. Je ne vais pas en avoir honte et au contraire, bah, c'est empowerant, quoi. Je me reconnais dans ce que tu dis du... Il n'y a plus que ton visage, quoi, à un moment donné, qui existe, quoi. Et c'est une forme de nudité, quoi.
Ouais.
Tout en étant habillée de... extrême, quoi, je trouve. Je me sens plus nue les cheveux courts habillée que en maillot de bain avec les cheveux longs. Ça, c'est sûr.
Oui.
D'ailleurs, en maillot de bain, les cheveux courts, ça, c'est... ça, c'est dur. Ça, c'est un challenge pour moi.
Ah ouais.
Ouais, vraiment.
Ça fait longtemps que je n'ai pas été en maillot de bain. Je m'en rends compte. La dernière fois que je me suis baignée, c'était nu. Et c'était il y a 2 ans.
C'était dans quel contexte ?
C'était en Allemagne. J'ai visité une amie qui faisait un stage... dans une apiculture. Et alors, il y avait des lacs alentour.
Ouais.
Et on allait se baigner au lac, toute nue.
Et tout le monde était tout nu.
Et tout le monde était tout nu.
Ça aussi qui est chouette, en fait. Quand...
Bah, après, on était dans des coins isolés, quoi. C'était vraiment, tu vois, c'est pas vraiment des plages, tu vois, des bords de lac. On était quand même un peu... Comment est-ce qu'on dit ? T'es un peu tranquille, quoi.
Et justement, ce rapport à ton corps, j'aimerais qu'on parle, oui, de ce rapport à la nudité. Est-ce que chez toi, ça a toujours été naturel d'être nu, par exemple, genre, est-ce que devant tes copines, t'es en train de changer, vous dormez ensemble, toc, et puis si tu passes à la salle de bain, si ta copine te voit nue, c'est pas grave?
Ça a été très très compliqué pour moi. La nudité, même les bras, parce que j'ai des scarifications sur les bras, donc pendant très longtemps, même l'été, je ne portais que des manches longues, mais jusqu'à mes 18 ans, quoi, 18-19 ans. Et puis j'ai eu des seins et des hanches assez jeunes. Et j'ai vécu des scènes de... des actes de drague, mais assez poussés ou assez... Moi, je comprenais pas vraiment très jeune, en fait, genre à 12 ans, par des mecs vraiment plus âgés, d'une trentaine d'années, par exemple, qui pensait que j'avais 16 ou 17 ans. Et du coup c'était un peu compliqué pour moi de la transformation du corps à l'adolescence, ça a été compliqué. Et puis après, j'ai eu un tuteur aussi qui était assez... assez machiste et misogyne d'une certaine manière, où tout ce qui attrayait à la séduction ou une recherche de séduction, avec une recherche autour de la féminité par exemple, je me rappelle que alors que j'en ai besoin, parce que sinon je peux pas me démêler les cheveux, j'osais pas lui demander, enfin c'était à chaque fois que genre c'était compliqué pour moi de lui demander des après-shampoings ou des démêlants, parce que il se moquait de moi quoi, et il prenait ça pour de la coquetterie en fait. Chaque soin apporté à quelque chose de dit féminin était constamment dénigré, donc du coup c'était un peu compliqué je pense, ouais, j'ai longtemps nié mon corps quoi. Du coup j'étais dans un rapport à mon intellect, à ma pensée, mais le corps était vraiment 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 secondaire. Et puis j'ai eu plusieurs déclics déjà quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai été indépendante. Et là, ça a changé mon rapport à mon corps. Et puis, après, quand j'ai été... j'ai fait un voyage en Afrique de l'Ouest et en Guinée. Plus longtemps, je suis restée plus longtemps en Guinée, mais j'étais beaucoup avec ma belle-mère, mes deux belles-mères, mes cousines. Et là, le rapport à la nudité entre femmes et au corps, c'est complètement déplacé, quoi. Et à partir de là, je pense que bah d'ailleurs après ça, ça a été la première fois où je me suis baignée nue dans la mer. Et maintenant, je mets jamais de maillot de bain quasi quoi, sauf si je vais dans une plage bondée. Mais je vais pas dans les plages bondées, donc oui. Mais ça m'a... Ça a été important pour moi de voir des corps de femmes noires et dans une nudité complètement aussi en dehors, dans presque un jeu quoi. Ça peut aller du jeu ou à la présence banale, mais complètement déplacée, enfin sans séduction,
dénuée de sexualisation quoi.
Ouais, c'est ça.
Et en même temps, quand je dis ça, moi, ce que ça m'évoque, c'est que, oui, quand je suis entre femmes, moi, j'ai beaucoup vécu dans les vestiaires de handball, parce que j'ai fait longtemps du handball, donc, et donc on prenait nos douches toutes ensemble. J'étais très à l'aise à cette époque-là. C'est après que ça s'est complexifié. Mais, et donc, j'avais comme l'impression qu'il n'y avait, oui, pas de sexualisation des corps. Et puis, c'est là que je veux me contredire, parce que je crois que c'est beau aussi de voir des corps sexualisés, comment dire, pour être plus juste avec ma pensée, mais pas exotisés en fait, c'est-à-dire qui assume la féminité, la sexualisation, sans être féchitisée, sans être sexualisée. Et ça me fait penser en fait... au porno mainstream et au porno féministe. Et moi, je sais que dans le porno mainstream, je peux pas regarder de femmes de corps noir, que ce soit des hommes ou des femmes. Je peux pas les regarder parce que ça me... Je les trouve... La narration qu'on me propose, c'est la violence, quoi, de ces corps-là. subie ou activée, enfin proposée, imposée à un autre corps. Et donc pour moi, ça a été très, le chemin a été très long pour avoir confiance dans mon corps noir, sexualisé, sans être fétichisé. Et je voudrais savoir comment toi tu as fait ce twist, si tu as été exposé.
Bah oui, oui, ça. La fétichisation ou le goût j'ai été beaucoup confrontée dans ma sexualité, même en dehors des images auxquelles je suis confrontée, par lesquelles je suis entourée. Mais j'ai pas l'impression de l'avoir fait, parce que c'est toujours des allers-retours, c'est pas exclusif à moi en fait. C'est-à-dire que si tu tombes sur quelqu'un qui te voit comme un objet exotique, tu es ramené à ça. C'est indépendant de ta volonté. Donc, du coup, oui, je dirais que j'ai appris à nommer et à pointer ce type de rapport, que au départ j'ai pu me retrouver dans des situations exotisantes où j'étais pas ni tellement respectée ni vue, mais que je n'arrivais pas à mettre des mots ou à déterminer par où ça passait, par où passait mon inconfort, et donc du coup à intégrer ces inconforts comme quelque chose qui était problème de moi, et qu'avec avec le temps j'arrive à au moins les voir, pas nécessairement aller agir dessus, à fuir parfois, mais
aujourd'hui tu es consciente, tu repères quoi, tu identifies,
ouais, c'est ça,
tu l'intellectualises,
c'est ça,
et après c'est autre chose dans la pratique. De ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aussi si on se parlait plus entre nanas de tous ces ressentis dans la sexualité, je pense qu'on apprendrait plus rapidement à trouver des outils pour tout de suite déjouer un rapport de domination, un rapport de force qui ne nous convient pas. Parce que j'entends, et pour moi j'ai eu cette sensation que c'était ça, c'est que du coup je me trouvais seule face à ces conflits-là. Comme si c'était à moi de les porter toute seule sur mes épaules, et que du coup l'autre, qui est pourtant le partenaire qui va t'objectifier ou qui va te fétichiser, ce matin j'ai du mal, ou t'exotiser, enfin en fait pour moi ça doit se discuter à deux quoi, enfin au moins, enfin que ce soit pas à moi de prendre en charge cette objectification là, et je trouve que elle, voilà, ça doit être posé sur la table, mis en dialogue. Et je me dis que si, entre personnes concernées...
Mais je trouve ça plus facile de parler de ça avec une femme racisée. Avec une femme racisée, à la rigueur avec un homme racisé, mais pas nécessairement. Et que, en fait, la personne qui t'objectifie, chaque fois que j'ai été confrontée, chaque fois que j'ai mis ce sujet sur la table, ça a finalement dévié parce qu'il y avait non reconnaissance, et donc du coup ça devient
c'est une violence en plus.
Oui, c'est ça part du coup dans, enfin chaque fois, oui, c'est parti dans des discussions beaucoup plus générales sur sur voilà, le rapport des uns et aux autres, sur face à des gens qui se défendaient. Et donc, du coup, j'ai pas trouvé que c'était vraiment possible de...
pas constructif, quoi.
Ouais. Bah, ouais. Et du coup, ouais, les personnes avec qui je peux plus discuter de ça, ce sont des personnes qui ont vécu des situations similaires, ou qui reconnaissent déjà le problème. Et j'ai jamais vraiment eu de partenaire qui était dans ces dispositions-là.
Enclin à en discuter. Ah, tu veux que... Parce que je vois que tu te prends le truc dans l'œil. Tu veux que je te mette ça dans un petit verre?
Non, c'est bon.
À côté?
C'est bon, c'est bon.
Est-ce que tu aimes bien ta peau?
Ouais.
Ça a toujours été le cas?
Non. C'est marrant. J'ai des scarifications sur les bras. Non, quand j'étais petite, ça a été compliqué quand j'étais petite. À l'école, l'école primaire, j'étais dans une école primaire catholique, j'étais la seule fille noire. Et je prenais beaucoup d'insultes. Et du coup, là, ça a été vraiment compliqué. Et puis...
Tu portais un uniforme ?
Non, on n'avait pas d'uniforme. Mais... ouais, j'étais tout le temps toute seule. Je lisais dans la cour, j'étais vraiment tout le temps toute seule. Et puis, après, ça a été compliqué pour une autre raison. J'ai été en foyer. Et donc, donc là, il y avait d'autres personnes racisées, mais on me demandait souvent de quelle origine j'étais. Et je ne savais pas, parce que ma mère est blanche, je ne connaissais pas mon père, j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Et on me donnait des tas d'origines depuis l'Asie du Sud-Ouest, l'Amérique du Sud, l'Afrique, les dom-toms. Et du coup, c'était compliqué parce que c'était comme une fragilité, quoi, comme si on m'attaquait tout le temps en me demandant t'es de quelle origine, et parce que ça me mettait dans le devoir d'exposer une partie de mon histoire avec laquelle j'étais pas confortable et qui était, ouais, douloureuse. Et du coup, je me faisais parfois attaquer, mais par d'autres personnes racisées, que j'étais pas fière de mes origines, que j'étais noire, qu'il fallait que je le revendique presque, mais je n'étais pas dans la position de pouvoir le revendiquer parce que j'en savais rien, quoi. Et donc ça, c'était compliqué. Et puis je sais pas, je pense, oui, bah, le fait de rencontrer mon père et d'apprendre de quelle origine j'étais, de faire ce voyage en Afrique de l'Ouest, ça m'a aussi ça m'a permis de développer un rapport plus sain, en fait, à ma peau.
Est-ce que tu as trouvé que les gens te ressemblaient lors de ton voyage en Afrique de l'Ouest? Est-ce que tu as trouvé des traits ou une couleur de peau particulièrement identique
Oui, bah oui, il y a des gens. Tout le monde pensait que j'étais peul. Ouais.
D'accord.
Mais je suis pas peul. Je suis diacanquée. Mais. Oui.
Et alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Diakinké?
Diakinké. Oui, c'est une ethnie d'Afrique de l'Ouest.
Donc, qui se trouve sur plusieurs territoires?
Oui. Nous sommes une petite ethnie, c'est proche des Malinkés. Et oui, c'est marrant parce que, du coup, dans la famille, les filles qui ont la peau claire, donc souvent rajoutent B à leur nom, par exemple Sarang B, Fantak B, et ce qui veut dire la blanche. Mmh. Et du coup, moi, j'étais parmi les plus claires, beaucoup plus claires que mes sœurs.
Attends, ajout au prénom ou au nom?
Oui, comme un, au prénom, au comme, prénom. Un, comme un surnom, quoi.
Ok.
Comme un surnom. Et du coup, en fait, je me rends compte que c'était pas, j'avais pas tellement de rapport à ma peau, c'est-à-dire soit ça venait, c'était ce qui faisait qu'on venait me poser des questions personnelles que j'avais pas envie de répondre, et en soi, ça me dérangeait pas, j'avais pas spécialement envie d'être blanche ou d'être plus claire ou plus foncée, j'avais pas vraiment de rapport à ma peau. Et après, j'en ai construit un, et aussi, je me suis rendu compte que ma couleur de peau était à l'intérieur qu'il y a toute une culture de la peau qui est... et un signe et une esthétique à l'intérieur des cultures noires, quoi. Mmh. Dont j'avais pas vraiment. Ouais, dont j'avais pas vraiment de conscience.
Tu dis qu'elle est de quelle couleur ta peau?
Brune. Je dis noir. Pendant longtemps, j'ai utilisé le terme métisse, puis je l'utilise plus parce que je me suis rendu compte que j'utilisais souvent ce terme lorsqu'on me mettait dans une situation d'altérité ou de, et pour dire non, mais je suis métisse, donc j'appartiens aussi à l'Occident, et je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'utiliser ça. Mm-hmm. Donc je dis que je suis afropéenne ou noire. J'ai plus de mal avec le terme d'afrodescendant parce qu'il y a une coupure dans ma descendance. Enfin, je n'ai pas grandi avec mon père, donc je partage pas vraiment. Enfin. Si, j'ai des éléments de culture, mais je veux dire, par rapport à mes sœurs, par exemple, je parle pas la langue, et du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi de... J'ai vraiment l'impression d'avoir qu'il y a une cassure, quoi. Mm-hmm. Mais du coup, en termes ethniques, je dis noir, quoi. Mais si je dois te décrire, ma peau, oui, je dis, c'est brun, quoi.
Merci de partager tout ça.
Ben voilà.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là, si ça va pour toi.
Oui. Ah, merci.